Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 mars 2024. Il est 5h30 temps universel. Voici le sommaire. Au Sénégal, le président Macky Sall a reçu le rapport sur le dialogue national qui préconise la tenue de la présidentielle le 2 juin, 2 mois après la fin de son mandat. Le premier ministre tchadien promet une enquête internationale sur la mort de l'opposant Yaya Diallo, tué mercredi dans un assaut de l'armée contre le siège de son parti. Les gardes-côtes chinois affirment avoir pris des mesures de contrôle après ce qu'ils présentent comme une intrusion de navires philippins en mer de Chine méridionale. Ici aux États-Unis, les Américains votent ce mardi à travers 15 États et un territoire à l'occasion du Super Tuesday. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Alexandrine Hollognon et l'actualité sportive présentée par Yacouba Ouidraogo. Mais pour commencer, le journal. Au Sénégal, le président Macky Sall a reçu hier un rapport préconisant la tenue de l'élection présidentielle le 2 juin prochain, 2 mois après l'expiration de son mandat. Le chef de l'État compte saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la question. Rosine Mounezero.
Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024, a déclaré le président Macky Sall en ouvrant à Diamniadio, près de Dakar, des concertations pour tenter de trouver un accord sur la date de la présidentielle. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale, a-t-il affirmé. Ma volonté et mon vœu le plus cher est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant la saison des pluies et dans la paix, a-t-il ajouté. Il a aussi réaffirmé son engagement à quitter la présidence à la date officielle d'expiration de son mandat, le 2 avril. Le dialogue a donc démarré sans le collectif de 17 sur les 19 candidats retenus. Ces derniers ont préféré adresser individuellement des requêtes au juge du Conseil constitutionnel, leur demandant de fixer la date de la présidentielle avant le 2 avril.
Le premier ministre tchadien Succès Masra a promis hier dans des médias qu'une enquête de type international serait menée par son gouvernement pour déterminer les responsabilités dans la mort mercredi de l'opposant Yaya Diallo Diérou, tué dans un assaut de l'armée contre le siège de son parti à N'Djamena. Le défunt président du Parti socialiste sans frontières a été tué parce qu'il refusait de se rendre et a lui-même tiré sur les forces de l'ordre, avait affirmé le ministre de la Communication Abderrahmane Koulamala, niant toute exécution. Son parti, le PSF, a accusé l'armée de l'avoir exécuté. Le reste de l'opposition a invoqué un assassinat pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle prévue le 6 mai prochain. En RDC, au moins 15 civils ont été tués lundi dans de violents combats et des milliers de personnes ont fui devant une offensive des rebelles du M23 dans l'Est. Selon de nombreux témoignages d'habitants, des sources médicales et des autorités administratives, le M23 a lancé une offensive lundi sur plusieurs localités sous contrôle de l'armée congolaise dans le territoire de Rutshuru, dans le nord Kivu. Alors que les affrontements ont diminué d'intensité ces derniers jours autour de Sake, à la périphérie ouest de Goma, des combats ont éclaté dans plusieurs villes et villages situés à environ 70 km plus au nord. La réclusion à perpétuité a été requise lundi en Suisse par la procureure fédérale contre l'ancien ministre gambien de l'Intérieur, Ousmane Sonko. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité. Yacouba Ouidraogo.
Dans son réquisitoire, la procureure a souligné que l'ancien ministre de l'Intérieur gambien, Ousmane Sonko, est co-responsable des actes commis par un groupe d'auteurs gravitant autour de Yahya Jammeh, qui dirigeait alors la Gambie. Ces infractions se seraient inscrites dans le cadre d'une attaque systématique contre la population civile du pays. Depuis le début des audiences en janvier, le Gambien Ousmane Sonko rejette toute responsabilité. Il clame son innocence, affirmant tout ignorer des actions qui lui sont reprochées. Il est accusé de crimes contre l'humanité, dont la torture et le viol répétés, qui seraient perpétrés de 2000 à 2016 sous l'ère de l'ancien président Yahya Jammeh. D'abord en tant que membre de l'armée, puis comme inspecteur général de la police et enfin comme ministre de l'Intérieur. Il a été arrêté le 26 janvier 2017 en Suisse, où il avait demandé l'asile après avoir été démis de ses fonctions ministérielles qu'il a occupées pendant 10 ans jusqu'en septembre 2016.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la Cour suprême a suspendu hier l'entrée en vigueur d'une loi controversée promulguée par le Texas. Cette loi criminalise l'entrée illégale dans le Texas, état frontalier du Mexique. Les précisions avec Nani Talani.
La loi dite SB 4, qui devait initialement entrer en vigueur ce mardi, crée une infraction pénale d'entrée illégale au Texas à partir d'un pays étranger passible de 6 mois de prison, voire jusqu'à 20 ans en cas de récidive. Elle donne également aux autorités de l'État le pouvoir d'arrêter les migrants et de les expulser vers le Mexique, des prérogatives relevant en principe des autorités fédérales. Cette loi, qui suscite l'opposition de l'administration de Joe Biden, est désormais mais entre les mains de la plus haute juridiction américaine qui a bloqué lundi son entrée en vigueur jusqu'au 13 mars, le temps d'examiner le dossier. Les autorités du Texas et le gouvernement fédéral s'opposent depuis des mois au sujet de l'immigration. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, partisan déclaré de Donald Trump, défie depuis des mois l'autorité du gouvernement du président démocrate Joe Biden, la taxant d'inaction délibérée face à l'afflux de migrants qu'il qualifie d'invasion.
Toujours aux États-Unis, les Américains votent ce mardi à travers 15 États et un territoire à l'occasion du Super Tuesday, date cruciale des primaires pour la présidentielle, qui devrait confirmer un nouveau duel Joe Biden et Donald Trump en novembre prochain, dit Lidico.
Côté démocrate, il n'y a pas de suspense. Joe Biden sera sans doute le candidat de son parti, car en face de lui, il ne compte pas de sérieux rival. Des dizaines de millions d'Américains sont appelés aux urnes dans 15 États et jusque dans les Samoa américains, petit territoire du Pacifique. 874 délégués sont en jeu sur les 2429 qui vont désigner le candidat du Parti républicain lors de la convention en juillet. L'équipe de campagne de Donald Trump prédit qu'il va remporter 773 délégués lors du Super Tuesday. À l'exception de la primaire dimanche à Washington, gagnée par Nikki Haley, l'ancien président Donald Trump a remporté tous les États qui ont voté en amont. Ce mardi s'annonce comme la journée de la dernière chance pour sa seule rivale, Nikki Haley, qui s'est engagée par le passé à rester dans la course jusqu'au Super Tuesday. Pour des experts, si elle s'est accrochée jusqu'à là, c'est dans l'espoir que Donald Trump soit empêché de concourir en novembre en raison de ses déboires judiciaires. Hier, la Cour suprême des États-Unis a rejeté à l'unanimité une décision d'un tribunal de l'État du Colorado qui a exclu Donald Trump de la présidentielle de novembre.
Les négociations entre le Hamas et les médiateurs internationaux continuent ce mardi en Égypte dans l'espoir de parvenir avant le Ramadan à un accord de trêve à Gaza après presque 5 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Un tel accord permettrait une libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Il y a eu un progrès significatif dans les négociations qui ont repris dimanche sans représentant israélien, a annoncé lundi soir sur la chaîne égyptienne Al-Kahira News, un haut responsable égyptien. Les gardes-côtes chinois ont affirmé ce mardi avoir pris des mesures de contrôle après ce qu'ils présentent comme une intrusion de navires philippins près d'un récif disputé en mer de Chine méridionale. Auparavant, les gardes-côtes philippins ont déclaré qu'un de leurs navires a été endommagé lors d'une collision avec un bateau des gardes-côtes chinois lors d'une mission de ravitaillement en mer de Chine méridionale, où Pékin et Manille entretiennent une longue histoire de différends maritimes. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins. La Chine a annoncé ce mardi viser une croissance d'environ 5% en 2024, l'un de ses objectifs les plus modestes depuis des décennies, alors que la deuxième économie mondiale peine à se relancer depuis les années Covid. Le chiffre a été officialisé par le Premier ministre Li Qiang lors d'un discours prononcé à l'occasion de la session annuelle du Parlement chinois à Pékin. Dans son rapport d'activité, le gouvernement a promis de poursuivre le progrès et garantir la stabilité de l'économie en 2024, annonçant aussi la la réduction de taxes douanières sur les importations de certains produits technologiques. Et puis l'Iran a exécuté au moins 834 personnes en 2023, soit une augmentation alarmante de 43% par rapport à 2022, selon le rapport annuel des ONG Iran Human Rights et Ensemble contre la peine de mort. Selon le rapport, au moins 471 personnes ont été exécutées pour des affaires liées à la drogue et au moins 282 pour des affaires liées au meurtre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, un condensé des nouvelles économiques. La Minute Éco, c'est avec Alexandrine Hollognon.
L'Égypte étudie de nouvelles expansions du canal de Suez afin d'étendre et d'achever un deuxième canal de la voie navigable, une mesure qui pourrait permettre d'augmenter les volumes de transport maritime et d'empêcher les blocages d'interrompre le trafic. Ces commentaires interviennent alors que le canal connaît une forte baisse de ses revenus. Les compagnies maritimes se détournent de la voie d'eau, le chemin le plus court entre l'Europe et l'Asie, en raison des attaques des militants houthis du Yémen contre les navires en mer Rouge. Les États de l'Union européenne ont accepté lundi de renouveler pour l'hiver 2024-2025 l'objectif de réduction volontaire de leur consommation de gaz, initialement adopté en 2022 face au choc de la guerre en Ukraine. Soucieux d'amortir la chute des livraisons russes et de réduire leur dépendance aux hydrocarbures importés, les 27 s'étaient entendus à l'été 2022 pour réduire leur demande de gaz sur l'hiver suivant de 15% par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. Le Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis 2 ans lundi, dépassant les 65 000 dollars. Le prix a atteint un sommet de 65 537 dollars au début de la séance en Europe, après avoir déjà atteint son plus haut niveau en 2 ans dans les échanges asiatiques.
Et maintenant, la page sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Un seul sujet dans cette édition, le Maroc veut absolument Brahim Diaz dans son effectif et pose les actes pour.
Oui, d'après le média espagnol La Cadena Ser, le milieu offensif du Real Madrid a été convoqué pour les matchs amicaux des Lions de l'Atlas contre l'Angola et la Mauritanie, prévus les 23 et 26 mars prochains. Depuis Casablanca, Amine Birouk nous en dit plus.
C'est déjà une pré-convocation. La convocation officielle aura lieu dans quelques jours. Il fallait respecter un délai de 15 jours entre la pré-convocation et le début du stage pour ces deux rencontres éliminatoires. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que c'est une histoire, c'est des appels du pied qui durent depuis 2 années. Il fallait régler quelques formalités administratives et notamment le fait que le joueur obtienne son passeport marocain, c'est chose faite. Et on se dit du côté même espagnol que si le joueur a changé de nationalité sportive ou est en passe de changer de nationalité sportive, il n'y a pas de fumée sans feu. Et visiblement, les efforts marocains, ce travail de sap qui a duré de très nombreuses années, va porter ses fruits. Ce sera un joueur différent, un joueur brillant. Et preuve en est sa saison avec le Real Madrid qui va venir sous peu, ou qui devrait sous peu, laissons cela au conditionnel, renforcer les Lions de l'Atlas. Ce sera une belle tête d'affiche et en tout cas ce que le joueur souhaitait, être le leader d'un projet ou un des leaders ou une des locomotives d'un projet qui devrait mener le Maroc vers la CAN 2025, la Coupe du Monde 2026 et surtout la Coupe du Monde 2030 qui aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc.
Amine Birouk, consultant sportif des équipes comme celle du Sénégal, ont réussi l'intégration des binationaux dans leur effectif, selon Amdine Sy.
Le Sénégal, dès les années 2000-2002, a pu récupérer les Kalidou Fadiga, les Abbé Pibé, les Ferdinand Coli, les Sylvain Ndiaye, etc. Ensuite, il y a eu les Kalidou Koulibaly, les Mendy, le gardien de but. Mais au début, il y avait un problème d'intégration, comme vous l'avez dit, puisque leur éducation n'est pas pareille avec les joueurs qui ont né et grandi au Sénégal. Mais avec Aliou Cissé, on a réussi ça, puisque Aliou Cissé, c'est un binational. Aliou Cissé, il a quitté le Sénégal très tôt. Donc, il connaît les deux cultures. Donc, lorsqu'il a commencé à coacher l'équipe nationale du Sénégal, et lorsqu'il a commencé à démarcher les binationaux, Aliou Cissé faisait tout pour que les binationaux puissent savoir les réalités sénégalaises. Et lui, connaissant les réalités françaises, Donc, il a su trouver le juste milieu pour pouvoir intégrer ces binations et cela se passe très bien au niveau du Sénégal. Et je pense que le Maroc, la Tunisie et les autres pays, le Mali, vont essayer de faire la même chose puisque c'est l'Afrique qui va gagner avec l'arrivée de ces binationaux au niveau des sélections africaines.
Amdine Sy, consultant sportif.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. 25% des communautés rurales de l'Eswatini manquent d'eau potable selon l'organisation caritative WaterAid et 40% de ces communautés n'ont pas du tout accès à l'eau. Ces problèmes d'accès à l'eau posent divers problèmes à la fois économiques, sociaux et sanitaires. Reportage de Nokukania Moussi depuis la région de Lubombo en Eswatini. Le récit est de Alexandrine Holognon.
Djadou Ganedze parcourt 2 km pour se rendre à la rivière Kouloubane. La seule source d'eau près de chez elle, à Mafungwane, dans la région de Lubombo, en Eswatini. Bien que l'eau soit contaminée et que son trajet soit dangereux, avec des risques de vol et d'agression sexuelle, Djadou Ganedze dit qu'elle n'a pas d'autre choix.
Au fur et à mesure que les saisons deviennent plus chaudes et plus sèches, l'eau dont nous dépendons se raréfie. Le puits qui nous a permis de survivre pendant si longtemps commence à s'assécher et notre avenir est en jeu.
Selon les Nations Unies, les températures moyennes annuelles en Eswatini ont augmenté de plus de 3 degrés Celsius entre 1961 et 2000. Ces changements ont entraîné une diminution du débit des principaux bassins fluviaux et une augmentation des cas de maladies d'origine hydrique. Chelukolo Silolo dit qu'en plus de se préoccuper d'obtenir de bonnes notes à l'école, il doit se préoccuper d'avoir de l'eau tous les jours. Il dit qu'il s'endort souvent en classe.
Nous devons nous lever tôt pour aller chercher de l'eau avant d'aller à l'école, ce qui a un impact négatif sur nos études. Lorsque nous arrivons à l'école, nous sommes déjà fatigués et nous nous endormons souvent en classe.
Melvin Dlamini, membre du comité de développement communautaire de Mafungwane, explique que les enfants de Mafungwane sont malades et que l'eau est impure. Les habitants n'ont pas d'autre choix que de la boire, même s'ils savent qu'elle les rendra malades.
Nos enfants sont malades et notre eau est impure. Nous n'avons pas d'autre choix que de la boire, même si nous savons qu'elle nous rendra malades.
Les agences d'aide internationales telles que WaterAid et World Vision International s'efforcent de résoudre la crise de l'eau en Eswatini en finançant la construction de systèmes de filtrage de l'eau et de nouveaux puits, ainsi que l'amélioration des installations sanitaires. L'agence d'aide italienne Cooperation for the Development of Emerging Country où COSP collabore avec les habitants de Mafungwane à la construction d'un nouveau système de filtration de l'eau qui sera bientôt inauguré.
Ils identifient les problèmes qui les affectent en raison du changement climatique et ils proposent également des solutions sur la manière dont ils peuvent s'adapter et traiter ces problèmes.
En 2023, le gouvernement de l'Eswatini a alloué des fonds pour améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau, ce qui bénéficiera à plus de 41 000 personnes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En République centrafricaine, les réactions se multiplient au lendemain de l'arrestation de l'opposant Crépin Mboli Goumba, arrêté hier à l'aéroport de Bangui alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Douala au Cameroun. Monsieur Mboli Goumba est en détention préventive à l'Office centrafricain de répression du banditisme. À Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Alors qu'il y avait beaucoup de spéculations sur l'arrestation de Crépin Mboli Goumba, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangui s'est prononcé en fin d'après-midi ce lundi sur les faits reprochés à l'opposant politique Benoît Narcisse Foupio.
Dans la journée du 20 février 2024, au cours d'un point de presse, Monsieur Crépin Mboli Goumba, haut de sa tribune, a délibérément mis en exergue ses propres intérêts et ceux de ses clients par des critiques acerbes et outrecuidantes contre certains magistrats en activité comme étant à l'origine du non-aboutissement des diverses procédures plaidées par son cabinet. Ces propos, comportant des termes de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité, seraient susceptibles d'être qualifiés de diffamation et d'outrage à magistrat. Il ne s'agit point d'une affaire ou bien des règlements politiques, car d'aucuns cherchent à jeter à tort le discrédit sur les autorités politiques et les institutions de la République.
Selon des documents de la police fuités sur les réseaux sociaux, Crispin Boulgoumba, avocat au barreau de Centrafrique, fait l'objet d'une enquête pour outrage à magistrat. L'enquête a été confiée le 29 février à l'Office centrafricain de répression du banditisme, unité de la police chargée de traquer les bandits. Son mode d'arrestation passe mal pour Martin Ziguélé, un des leaders de l'opposition et membre de la plateforme politique BRDC.
Ce qui est arrivé à Maître Boulgoumba, c'est une arrestation arbitraire. Et donc, il faut que les choses soient claires. Il a été implicitement traité comme un criminel, un grand bandit. Et nous pensons que la volonté d'humilier, de le détruire psychologiquement, de détruire son image est manifeste. Nous ne disons pas qu'un leader politique ou un centrafricain quelconque est au-dessus de la loi. Mais nous voulons que la loi, dans son application, soit respectée.
Depuis son arrestation, Crispin Boulgoumba n'a eu accès ni à ses avocats, ni aux membres de sa famille. Au barreau, ses collègues avocats ont décidé de boycotter les audiences jusqu'à nouvel ordre. Maître Émile Bison, bâtonnier de l'ordre des avocats.
D'abord, la base a considéré cette situation comme un manque de respect et un mépris vis-à-vis non seulement de leurs représentants, mais de l'ensemble du corps. Et sur cela, la base a décidé de ne pas prendre part aux audiences à compter de ce jour et de manière illimitée. Cela concerne toutes les juridictions de la République centrafricaine.
Fin février, lors d'une conférence de presse, Crispin Boulgoumba a dénoncé une mafia au sein de l'appareil judiciaire centrafricain. Il avait notamment pointé du doigt le ministre d'État à la Justice, Arnaud Dubaï Abazen, d'entretenir un réseau de mafieux et de corrompus. Sa sortie avait suscité la colère des autorités judiciaires qui avaient promis des sanctions disciplinaires et sa traduction en justice. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Au Burkina Faso a été lancée une caravane de sensibilisation contre la consommation de la drogue. Oskimo Tour Jeunes Propres Sans Drogue va sillonner une dizaine de localités pour sensibiliser les jeunes aux méfaits des stupéfiants. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À Saba, une commune de la banlieue de Ouagadougou, la caravane Oskimotu, jeune propre sans drogue, vient d'être lancée. Cela fait 17 ans qu'elle parcourt le pays. Le rappeur Wediak, ancienne gloire de la musique burkinabé, avait sombré dans la drogue il y a quelques années. Témoignage pour la jeunesse d'aujourd'hui. La souffrance nous a gardé, nous enchaîne. Yassène Ouedraogo dit Wediak.
Plusieurs fois j'ai fait des cures, je suis tombé, je suis relevé. Et ce que je retiens de tout cela, c'est que quand on dit quand Dieu t'aide, il faut t'aider toi aussi. C'est dit, il faut y mettre la volonté réellement. J'interpelle vraiment la jeunesse. À cette partie de la jeunesse qui n'a pas encore touché aux stupéfiants, franchement, je vous prie de vous garder, de vous éloigner de cette toxine-là qui détruit réellement et qui n'arrange pas. Et à toutes les personnes, là, toute cette jeunesse qui est encore plongée là-dedans, que Dieu leur donne la force de vraiment de se saisir et d'en sortir.
Le lancement de la caravane dans la plus grande commune de Ouagadougou n'est pas fortuit. Kassoum Kabouri, président de la délégation spéciale de la commune de Saba.
La consommation de la drogue dans notre commune prend de plus en plus de l'ampleur. Donc nous saluons l'organisation de la caravane qui a sa 17e édition pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits qu'ils encourent en consommant la drogue.
La lutte contre la drogue reste un véritable problème de santé et une préoccupation pour le ministère de la Santé. Docteur Olivia Ouedraogo, directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles au ministère de la Santé.
Selon les données statistiques, en 2023, on a enregistré plus de 1747 cas de consommateurs de drogue dans les formations sanitaires. Et on se rend compte que de plus en plus, la consommation de la drogue est un fléau dans nos lycées, au collège, où sont nos enfants, nos frères et sœurs.
Cette année, les organisateurs de la caravane ont lié la lutte contre la drogue aux problèmes sécuritaires que connaît le pays. Youssouf Sawadogo, le promoteur de Oskimotu, jeune propre sans drogue.
Vous savez, quelqu'un qui est lucide ne va pas oser aller dans une mosquée ou une église ou dans un village, aller carnader les gens. Voilà. Mais quand tu n'es pas lucide, le temps de t'en rendre compte, tu as fini de faire des dégâts. Donc c'est pour dire simplement, même quand vous voyez les gens, même en circulation, quand on n'est pas lucide, on peut brûler le feu. Celui qui est lucide, on vient le cogner. Tout ce qui peut vraiment déranger les jeunes, il faut faire un travail de prévention. Et c'est ce que nous essayons de faire.
Au moment où la caravane s'apprête à sillonner, en plus de Ouagadougou, 6 autres villes de l'intérieur du pays, la douane de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, vient de saisir 740 plaquettes de chanvre indien. Selon la direction générale des douanes, la valeur de cette saisie est estimée à plus de 52 millions de francs CFA. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Ici aux États-Unis, les électeurs de plus d'une douzaine d'États se rendent aux urnes ce mardi pour choisir le candidat de leur parti à l'élection présidentielle de novembre. Au cours du week-end, les candidats ont intensifié les critiques à l'égard de leurs adversaires et ont exposé leurs priorités aux électeurs. Véronica Balderas Iglesias de la VOA nous en dit plus dans ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
Les électeurs de 15 États américains et des Samoa américaines se rendront aux urnes ce mardi 5 mars, ce que l'on appelle ici le Super Tuesday. Vu que la majeure partie des délégués sont attribués lors de ces scrutins, le président démocrate Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump devraient tous deux se rapprocher de l'investiture de leur parti. L'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, qui tente le difficile pari de rattraper Trump dans la course électorale, a déclaré dimanche à l'émission Meet the Press de la chaîne NBC qu'elle resterait candidate aussi longtemps que les électeurs le voudraient.
Ils le montreront par leur vote, ils le montreront par leurs dons. Nous devons sécuriser nos frontières et être un pays de droit et d'ordre. Et nous croyons à la paix par la force.
L'immigration fait également partie des sujets sur lesquels l'ancien président Trump a choisi de se concentrer à l'approche du Super Tuesday.
Pas une seule vie américaine innocente ne doit être perdue à cause de la criminalité des migrants. Il faut y mettre un terme. Nous devons aller voter parce que nous voulons une forte participation le 5 novembre. Nous devons leur faire savoir que nous sommes en train en marche, nous allons de l'avant et nous ne nous arrêterons pas.
Le président Biden, qui s'est rendu à la frontière du Texas la semaine dernière, accuse Trump de faire échouer un projet de loi bipartisan sur la sécurité frontalière. Samedi dernier, la première dame Jill Biden a fait la lumière sur un autre sujet qui, selon elle, devrait être pris en compte par les électeurs avant le Super Tuesday, les droits reproductifs des femmes.
Il envisage d'interdire l'avortement au niveau national. Donald Trump est dangereux pour les femmes et pour nos familles. Nous ne pouvons tout simplement pas le laisser gagner.
Le président Biden est pratiquement assuré d'être le candidat de son parti, le Parti démocrate. Du côté républicain, Donald Trump doit obtenir au moins 1215 délégués pour obtenir officiellement l'investiture. L'annonce officielle des résultats de tous les scrutins de mardi pourrait prendre plusieurs jours.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est déjà la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, n'hésitez pas de vous rendre sur notre site internet www.voaafrique.com. L'information y est diffusée 24 heures sur 24, ainsi que sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.